Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un malheur qui a plongé un village de l'Est de la France et tout le pays dans l'effroi. Un matin de décembre 1956, on découvre dans un fossé le corps d'une jeune femme enceinte, assassinée. Le lendemain, un homme avoue le crime. Il s'appelle Guy Desnoyers, c'est un prêtre. C'est au lendemain des faits, lors du procès en France et à l'étranger, l'affaire fait grand bruit dans la presse, on ne trouve aucune archive radiophonique, télévisuelle ou cinématographique sur ce drame. Idem pour le procès. Pour illustrer cette histoire, nous avons donc fait le choix de faire lire à des comédiens différentes déclarations retranscrites dans la presse. Vous n'entendrez donc ni la voix de l'abbé, ni celle de ses victimes. De toute façon, l'affaire Desnoyers est une histoire où se confrontent les silences. Le silence d'un village qui n'a pas su faire face au curé et à ses déviances, le silence de l'église qui a préféré les prières au témoignage à la barre, et enfin, le silence de l'accusé. Depuis cette nuit d'hiver 1956, cette affaire effraie autant qu'elle fascine. Beaucoup d'auteurs se sont inspirés de ce drame et de ce personnage. En 1967, un court-métrage avec Bernadette Lafont s'inspire de l'histoire entre Régine et le curé. En 1969, Roger Planchon signe une pièce intitulée « L'infâme » qui fait scandale. En 2015, c'est Melville Poupeau qui joue le rôle du curé dans un long-métrage de Philippe Ramos intitulé « Fou d'amour ». Pourquoi l'histoire de ce prêtre assassin fascine-t-elle autant? Quel est son parcours? Pourquoi a-t-il tué? Et a-t-on assisté à une confrontation entre la justice de Dieu et la justice des hommes? Après le récit, nous recevrons Jean-Pierre Bigeaud, psychanalyste et auteur du livre intitulé « Le double crime de l'abbé Desnoyers », publié chez L'Harmattan. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice L'Aigle.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Décembre 1956, Uruf, 392 âmes, 40 km au sud-ouest de Nancy. Dans ce village, cette nuit-là, les cloches sonnent. À l'intérieur de l'église, au bout de la corde, tirant de toutes ses forces pour réveiller les alentours, l'abbé de la paroisse, Guy Desnoyers. La veille, jour d'office, en haut de sa chaire, il avait prévenu ses fidèles de son absence. Il devait se rendre auprès de sa famille, qui vient un peu éloignée du village. En cas de problème, certains d'entre eux connaissent le numéro de téléphone de son frère. C'est ainsi que ce 3 décembre, à 22h, le repas de l'abbé et de sa famille est interrompu. On apprend au bout du fil au curé que Régine Faïs, une jeune fille de 19 ans, enceinte de 8 mois, n'est pas rentrée chez ses parents. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était à l'épicerie avec sa sœur. À la sortie, Régine a prétexté une dernière course qu'elle devait faire, seule. Depuis, elle n'est pas réapparue. Dans ce village, comme dans la plupart des bourgs de France, c'est souvent vers le curé du coin qu'on se tourne en cas de problème. Par chance, Guy Desnoyers a une voiture, une 4 chevaux. Il annonce donc son retour pour aider la famille. Dès son arrivée, avec d'autres proches de Régine, il fait une première reconnaissance autour du village, mais il ne trouve rien. Dehors, la neige recouvre les plaines, et l'inquiétude grandit. Vers minuit, l'abbé prévient le maire et lui demande l'autorisation de sonner le tocsin. Maison après maison, les habitants descendent vers le centre du village et se rassemblent autour de l'église. L'abbé est là, et il annonce la disparition de Régine, puis organise les secours. En quelques minutes, Uruf se vide. Munis de torches et de lampes, des petits groupes se forment et se dispersent dans la nuit. Peu à peu, on entend s'éloigner le son du cri des habitants qui appellent la disparue. L'abbé, lui, reprend sa voiture et roule en direction de Pagny-la-Blanche-Comte, une commune voisine. Il passe devant le calvaire proche du village. Dans la voiture, chaque passager scrute l'horizon et les bosquets. Une fois, puis deux, là, l'abbé a cru voir quelque chose. Il stoppe le véhicule, l'un des passagers sort, un cri s'élève. L'abbé le suit, puis il tombe à genoux, car Régine est là, sur le dos. Derrière ses cheveux, une auréole de sang recouvre le sol, elle a le ventre ouvert. L'enfant est à côté, mort-né, le visage tailladé. Face à l'horreur de la scène, l'abbé prie et prononce la prière des morts. Que s'est-il passé? Quel diable a-t-il pu commettre un tel acte dont la barbarie dépasse l'entendement? Cette nuit-là, au petit matin du 4 décembre, une nouvelle fois, les cloches sonnent pour annoncer qu'il est désormais trop tard. Régine n'est plus. Dès les premières heures de la matinée, le parquet de Toul et la brigade de Nancy se rendent sur place. Ils découvrent un village groggy. Ces hommes qui ont marché dans la neige, cherchant en vain l'appétit du village, ne sont plus que des pantins assis aux tables du café. Choqués, silencieux, ils se sont murmurés l'état du corps de Régine et de son enfant. Elle avait 19 ans. Comme son père, elle travaille aux verreries de Vannes-le-Châtel. Au printemps, son ventre avait grossi. Le père était inconnu, mais ses parents avaient accepté l'idée de lui ouvrir leur foyer. Le coupable est-il le père inconnu? Sans doute. Seul, à une table, l'abbé murmure.
Je connais l'assassin. Je sais la vérité. Mais je ne peux rien dire. Je suis lié par le secret de la confession.
Étrange confession d'un homme qui a pourtant cherché Régine une partie de la nuit. Quand les enquêteurs interrogent les gens du village, on leur répète évidemment les mots de l'abbé. Devant les inspecteurs, Desnoyers confirme ses propos.
Oui, je sais. Mais je n'ai pas le droit de parler. Tout ce que je puis vous dire, c'est que vous n'avez pas à chercher à Uruf. L'assassin n'est pas d'ici.
Pour les inspecteurs, quelque chose cloche autour du curé. Pour eux, bien qu'abbé, il est un témoin comme un autre. La soutane, la croix, les figures religieuses ne sont que les apparats d'un pouvoir qui ne permettra pas aux prêtres d'échapper aux questions des inspecteurs. De plus, loin du confessionnal, certains habitants révèlent aux enquêteurs les liens entre Régine et l'abbé. Oui, il aurait été son amant, comme celui d'autres filles d'ailleurs, des autres filles de la paroisse. Mais ce n'est pas parce que l'homme d'église a rompu ses vœux qu'il a tué. À côté du corps de la victime, les inspecteurs retrouvent une douille d'un calibre 6 mm 35. Et au presbytère, en fouillant un peu, les inspecteurs découvrent dans un tiroir un revolver. Après 10 heures d'interrogatoire, pendant lesquelles il nie l'évidence, l'abbé Desnoyers avoue. C'est bien lui qui a retiré la vie, par deux fois. Celle de cette jeune fille de 19 ans dont il était l'amant et celle de l'enfant qu'elle portait et dont il était le père. Le lendemain, le prêtre assassin fait la une des journaux locaux, nationaux et même internationaux. Adossé au compte-rendu de cette nuit d'épouvante, les lecteurs découvrent le communiqué de l'évêché de Nancy.
L'opinion publique aura été cruellement frappée par l'annonce du terrible drame qui vient de survenir dans une paroisse de notre diocèse. Un tel acte est incompréhensible par sa monstruosité même. Il appartient à la justice humaine de suivre son cours.
Bien sûr, mais la justice des hommes coupera-t-elle la tête d'un abbé ? Le 5 décembre 1956, fin de matinée, les cloches du Ruf sonnent, le temps s'arrête de nouveau. Il y a 36 heures, elles annonçaient un malheur. Aujourd'hui, elles rappellent les paroissiens en Sainte-Église. Régine était catholique. Ses parents, sa famille, ses amis, les gens du village le sont aussi. Et même si c'est un homme d'église qui a assassiné Régine, il se retrouve au sein de la maison pour l'enterrer, elle et son enfant. Dans la lueur des cierges, il découvre alors le nouvel homme de foi que l'évêché leur a envoyé. C'est un vicaire de Nancy. L'ecclésiastique emprunte l'escalier et s'installe à la chaire qui surplombe les paroissiens. Quelques jours plus tôt, au même endroit, c'était l'abbé Desnoyers qui s'exprimait devant eux, leur annonçant son absence. Après quelques secondes d'hésitation, le vicaire entame son homélie. La voix tremble, mais les sanglots cessent.
Mes frères, l'humain est incapable de dire ce qu'il ressent, quand l'inhumain a fait ce qu'il a fait. Je suis conscient de vous parler au nom des 700 prêtres du diocèse de Nancy, pour vous dire de quel déchirement nous avons souffert quand nous avons appris l'horrible chose. Nous sommes prêtres, et c'est l'un d'entre nous qui vous a fait souffrir. Vous savez bien que ce n'est pas parce qu'il portait une soutane que nous sommes tous des assassins. Vous savez bien que s'il fut prêtre indigne, nous ne sommes pas tous des prêtres indignes.
L'abbé Desnoyers était apprécié par les paroissiens, les paroissiennes, par les jeunes, les plus anciens. Arrivé en 1950, il a marié, baptisé, célébré les communions des enfants du village. Dévoué, entreprenant, charmeur, il était apprécié de tous. Dans le confessionnal ou lors de repas, ils lui ont tous livré leurs secrets et tous désormais connaissent le sien. L'abbé aimait le corps des femmes jusqu'à en oublier ses vœux. Mais certains paroissiens sur ces bancs d'église étaient-ils dans la confidence avant le drame? Et si oui, pourquoi se sont-ils tus? Face à la justice, sauront-ils faire face à l'ancien curé du village? Le procès de l'abbé Desnoyers s'ouvre le 24 janvier 1958. Comme 14 mois plus tôt, pendant la nuit du double assassinat, le froid balait la place Stanislas, où se sont rassemblés au petit matin les curieux et les journalistes qui espèrent comprendre quel mal s'est caché derrière la soutane. Car c'est l'un des enjeux du procès, désacraliser l'assassin et essayer de comprendre la vie de cet homme qui a tué. Quand Guy Desnoyers arrive dans le box, les journalistes découvrent un homme de 37 ans, le cou maigre, le visage émacié, le regard creux. De son ancienne vie, il ne lui reste qu'une croix noire qu'il garde dans sa main. Pour se présenter au juré, Guy Desnoyers n'a pas fait le choix d'un joli costume du dimanche, chaussures brossées, vernis non. Non, il a préféré une chemise blanche, sans cravate, un petit veston noir, corseté. Au pied, il a mis des sandales d'été alors que dehors, la glace recouvre le sol. Comment ne pas voir sous cet accoutrement un curé de campagne ? Quand on lui demande de déclarer son identité, Desnoyers indique.
Guy, Marie, Louis, Henri, né à Gerbécourt. Profession, prêtre. Domicile, Uruf.
Sur le banc des jurés, ils sont 7, tous lorrains et tous pratiquants, dont 5 très actifs au sein du mouvement Action catholique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cela n'a rien d'étonnant. Si aujourd'hui nos églises sont souvent désertes à l'époque, il était souvent mal vu d'être absent de l'office du dimanche. Le curé était un notable. Cette respectabilité n'était pas due à son instruction comme celle de l'instituteur, à ses relations comme celle du maire, non. À la foi et au secret que chaque paroissien lui confiait. Mais aujourd'hui, un prêtre est devant le prétoire. Notable ou non, les jurés doivent en principe oublier ces privilèges. Ils doivent juger non pas selon la classe sociale ou la religion, mais ils sont tenus d'écouter, de comprendre le parcours de l'accusé, puis, en leur âme et conscience, de reconnaître ou non la culpabilité de celui qu'on juge. Ici donc, c'est Guy Desnoyers, coupable, selon l'acte d'accusation, d'avoir assassiné une jeune fille de 19 ans, de l'avoir éventrée et d'avoir, avec un petit couteau de scout, ouvert des plaies vives dans le visage d'un bébé pas encore né. Comme pour chaque procès, l'audience débute par une biographie de l'accusé, de son enfance, jusqu'au soir du crime. À la barre, aucune personne de sa famille n'est citée, ni sa mère, ni son frère, qui le reçut pourtant le soir du drame. De plus, on ne voit aucun camarade de séminaire, prêtre ou évêque qui ont pu le rencontrer et prier avec lui. Dès le lendemain du drame, l'évêché et l'église ont tout fait pour éviter que le drame du Ruf n'éclabousse l'institution et ne lève le voile sur les conditions de vie de ses serviteurs. Alors, volontairement ou non, le souhait de l'église est entendu. Guy Desnoyers est né 37 ans plus tôt au sein d'une famille lorraine de cultivateurs. Quand aime-t-il son chemin vers Dieu ? Autour des 13 ans. Est-ce de son propre chef ? Allez savoir. Il était un élève moyen. Le choix de devenir serviteur de l'église était un chemin comme un autre. La Seconde Guerre mondiale rompt un temps le cours de l'apprentissage que Desnoyers reprend dès octobre 1944. En 1946, il est ordonné puis nommé vicaire à Balmont. Est-ce là que l'abbé a rompu ses vœux de chasteté ? Lors du procès, le président Jacques l'interroge sur ce point.
Vous êtes immédiatement considéré comme un prêtre dévoué, serviable et actif, mais l'un de vos amis a rapidement décelé chez vous une absence presque totale de préoccupations intellectuelles.
J'ai toujours eu beaucoup de mal pour apprendre. Mais tout de même, je lisais mes livres de théologie.
On peut se demander si ce ne sont pas d'autres activités qui se sont substituées à celles-ci. Et nous allons malheureusement être obligés de les évoquer. Vous affirmez que vous n'avez pas eu de liaison féminine avant 1946, avant l'arrivée à Blamont.
Je l'affirme.
C'est pourtant dans ce village que Guy Desnoyers rencontre Madeleine, une jeune fille de 16 ans. Lui en a 26. Ils sont tous les deux vierges, et c'est ensemble qu'ils découvrent les plaisirs de la chair. Madeleine devient le nom de son premier péché. Avec elle, l'abbé met en place une sorte de mécanique qui lui permet de lier plaisir à sacerdoce, comme si les deux étaient conciliables. Après chaque relation sexuelle, le vicaire l'absout de ses péchés. Malgré ces relations, Desnoyers ira jusqu'à marier la jeune femme. Si le vicaire est emporté par le péché de luxure, en revanche, il se paye le luxe de ne pas être jaloux. Et pour cause, dès le départ du mari pour l'armée, l'abbé retrouve vite le chemin de la couche de la jeune femme. Oui, mais ses visites sont remarquées. Dans ces villages, comme dans tout village, si le silence est roi, la rumeur est reine. Les aventures du vicaire bruissent jusqu'à l'intérieur du confessionnal. Devant son supérieur, Guy Desnoyers nie, et il pense qu'il changera, mais rien n'y fait. On prévient l'évêché, et décision est prise d'éloigner le vicaire de sa Madeleine. Desnoyers quitte donc Balmont et rejoint Réon. Malgré la distance, on le voit pourtant de nombreuses fois aux abords du village, c'est que le curé n'abdique jamais. Madeleine n'est pas la seule amoureuse de l'abbé. Lors du procès, grâce aux éléments divulgués par le président, on découvre en effet que l'homme aime autant les jeunes filles que les femmes plus âgées que lui.
Lorsque vous fûtes à Réon, vous avez fait connaissance d'une dame, une veuve, dans des circonstances assez pénibles.
À Réon, un soir, une femme lui demande de venir pour donner le dernier sacrement à son mari mourant. Desnoyers accompagne l'homme jusqu'à son dernier souffle. Le départ acté, le vicaire obtient les faveurs de la femme devenue veuve quelques minutes plus tôt. Sont-ils déjà amants ? Bon, Guy Desnoyers n'est pourtant pas un bel homme, il a un physique banal, de larges lunettes, un front déjà dégarni, le regard creusé. Comment arrive-t-il autant à user de son rôle pour abuser ses proies ? Question intéressante, centrale même. Et pourtant, durant son procès, aucune amoureuse ou femme trompée par Desnoyers n'est appelée à la barre. On ne sait donc rien des mots et des promesses qu'il a pu faire. Aux questions du président, l'accusé Desnoyers répond toujours de façon succincte, presque détachée, comme lorsqu'il évoque cette veuve amoureuse.
Cette personne vous semblait très attachée. Elle n'a pas hésité à faire en votre faveur des sacrifices matériels. Elle vous a prêté 50 000 francs pour vous installer à Uruf.
Je ne m'en suis pas servi pour moi.
Ne lui avez-vous pas dit qu'une voiture serait plus commode pour vous qu'une motocyclette ?
Je le lui ai dit, mais je ne lui ai rien demandé.
Elle vous a cependant prêté 150 000 francs, l'essentiel de ses économies. Les lui avez-vous remboursés ?
Pas encore.
Grâce à cette paroissienne, le vicaire peut désormais se déplacer où il veut, à bord d'une 4 chevaux. Les mois passent, et comme à Balmont, les langues se délient. On soupçonne le curé de céder au plaisir de la chair. On avait pourtant averti l'abbé en charge de Desnoyers qu'il devrait garder un œil sur ce jeune homme, mais celui-ci n'a pas réussi à contrôler les envies de Guy. Et une nouvelle fois, 4 ans après avoir été ordonné, on demande à Desnoyers de faire sa valise et de rejoindre une autre paroisse. C'est ainsi, en 1950, qu'il débarque à Uruf, qui vient de perdre son curé. C'est la première fois qu'il est à la tête d'une cure, tout seul. En quelques semaines, le nouvel abbé rompt avec l'image traditionnelle des curés de campagne, un peu vieillissants et fatigués, qui limitent leurs tâches à l'office, au sacrement et au déjeuner chez les paroissiens qui l'accueillent. L'abbé Desnoyers, lui, est jeune, actif, sportif. Il joue au foot, organise des séances de cinéma ainsi que des pèlerinages où se mélangent foi et découverte. Sauf que, lors de ses voyages, l'abbé en profite. À la barre, l'un des inspecteurs raconte ce qu'ont déclaré certaines paroissiennes lors de ses escapades. L'un de ses voyages se déroule sur la Côte d'Azur. Durant cette retraite, la petite troupe décide de se baigner sur une plage déserte du Lavandou où on ne trouve ni cabine ni arbre pour se cacher, pour enfiler son maillot. C'est là que l'une des paroissiennes, un peu plus âgée, surprend l'abbé qui étend sa soutane en paravent pour cacher les corps des jeunes filles du regard des autres, oui, mais pas du sien. Malgré la situation, la paroissienne gardera le silence. Ce n'est qu'au lendemain du crime qu'elle raconte cette anecdote troublante. Mais est-ce le seul écart de l'abbé ? Parmi ces jeunes paroissiennes, il y a Michel. Quand elle tombe sous ses charmes, elle n'a pas encore 16 ans. Les mois passent, les rencontres se succèdent. Et ce qui devait arriver arrive. La jeune fille tombe enceinte. L'absolution ne peut rien contre la nature. Devant elle, Guy Desnoyers reprend ses apparats de curé et convainc la jeune fille de quitter la ville pour accoucher et abandonner l'enfant. À ses parents, la jeune fille invente l'histoire d'un rôdeur et d'un viol, ce que la famille accepte de croire. Comme promis, Michel accouche loin du village, puis rentre seul. Selon ses dires, l'enfant serait mort-né. Était-ce la première fois que le curé a dû faire face à ce problème ? On ne sait pas. Est-ce que cette mésaventure remet Guy Desnoyers dans le droit chemin, dans son sacerdoce ? Là, on sait, c'est non. Michel a une amie, jeune et jolie comme elle. Son nom, enfin son prénom, Régine. Et elle aussi tombe sous le charme de l'abbé. Et en avril 1956, elle lui apprend qu'elle est enceinte. mais elle refuse d'abandonner le bébé. Comment l'abbé réagit-il? Comment peut-il vivre alors que dans le corps de cette fille, le péché prend forme?
Tu bouges, je ne bougerai pas, j'attends. Et rouge, une flamme s'en va dansant. Et soudain, c'est la terre qui s'ouvre, vocifère ta colère, qui claque, éclate. Tu bouges, moi je ne bouge pas, j'attends. Tu tonnes, résonnes, le bruit de tes cris maintenant. Tu casses, agaces, le temps a suspendu son temps. Tu armes tes armes, tu quêtes mes larmes. Et je reste de glace, méfiante, prudente. Tes armes, tes drames ne m'alarmeront pas, j'attends. Et je guette, je vais saisir entre mes dents. Je guette l'instant où tu vas pantelant. Reprendre ton souffle qui s'essouffle, s'essouffle. Ça ne tardera pas, attends. Alors, démente mes lentes, je me déplace lentement. Mes hanches balancent, j'ai un couteau entre mes dents. Ma bouche si douce grâce à la feuille et les serpents. La folie, la furie, je hurle vengeance. Je n'épargnerai rien à temps. La terre, s'ouvre, s'ouvre, c'est fini. Plus d'un loup, va-t'en, va-t'en, va-t'en.
La vie de Régine Feiss bascule sans doute en avril 1956 quand elle annonce à l'abbé être enceinte de lui. À la barre, le président Jacques interroge Desnoyers sur cette annonce.
Quel a été votre sentiment à ce moment-là?
Un sentiment de crainte.
Vous vous trouvez donc dans la même situation que 2 ans auparavant. Quelle solution envisagez-vous?
À cette époque, je n'envisageais rien.
N'est-ce pas vous qui avez suggéré à Régine la manière dont elle devait apprendre la nouvelle à sa famille?
Elle l'a fait en dehors de moi. Elle m'avait dit que jamais personne ne saurait.
Une promesse que Régine a tenue, mais elle n'a pas répondu à tous les souhaits de l'abbé. À l'inverse des Michel, elle refuse de quitter le village et décide de garder l'enfant. Par chance, ses parents acceptent d'accueillir ce bébé dont ils ne connaissent pas le père. Semaine après semaine, le ventre de Régine grossit. Pour les gens du village, l'enfant est désormais une femme qui sera bientôt mère. Pour l'abbé, Régine n'est que le miroir de son péché. Elle porte en elle un enfant qui aura bientôt ses traits, alors que peut-il faire ? Durant l'audience, le président interroge Desnoyers sur les différents choix qui s'offraient à lui. Oui, il aurait pu avouer sa faute, abandonner son sacerdoce et reconnaître l'enfant, ou alors se suicider, ou bien demander de l'aide à l'évêché pour trouver sans doute un nouveau refuge. Mais Guy Desnoyers a écarté chacune de ces solutions. Pourquoi? Eh bien parce que je suis prêtre, répond-il. Pourtant, durant cet automne 1956, Guy Desnoyers fait un choix, celui de tuer, même s'il est prêtre. Dans la salle d'audience, quand on en vient à l'évocation de la nuit du 3 décembre, tout le monde espère comprendre les derniers instants d'origine et de son enfant. Desnoyers cherche ses mots. Il dit au président que rien n'était vraiment prévu. Pourtant, lors de l'office, il avait annoncé son départ du RUF pendant quelques jours. Il avait donné rendez-vous à Régine le lendemain, en fin de journée, près du calvaire, en dehors du village. Et puis dans le vide-poche de la voiture, il y avait un revolver. À son arrivée, Régine entre dans sa voiture, ne craignant rien.
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là?
J'ai dit à Régine, qui était assise à côté de moi, « Je vais te donner l'absolution. » Et j'ai ajouté « Est-ce que tu me pardonnes ?» Elle a murmuré « Oui, je te pardonne, mais je ne veux pas de ton absolution. » J'ai insisté. Alors elle a haussé les épaules avant de descendre de voiture. « Tu m'ennuies, je rentre à pied. » Elle a fait quelques pas, me tournant le dos. Je l'ai appelée de nouveau, sans succès. Alors je suis descendu à mon tour. Elle arrivait près de la haie d'arbuste quand j'ai tiré. J'étais à 1 mètre d'elle.
La bête tire alors le corps vers le fossé. Et puis, à la lumière de ses phares, à l'aide d'un petit couteau de scout, il effectue une césarienne. L'enfant est vivant. Il le baptise, puis il le tue. De ce double crime, il ne reste que les photos qu'on présente aux jurés et les mots de l'assassin qui était le seul témoin de ces derniers instants. Les jurés découvrent les visages de l'enfant lacérés de coups de couteau, les yeux crevés. Mais pourquoi a-t-il fait ça ?
Depuis 14 mois que je suis en prison, j'ai réfléchi. J'ai pensé. Je ne cherche pas à nier quoi que ce soit. Mais les causes en elles-mêmes, je suis incapable de les déceler. Cela me dépasse.
La scène qui a suivi la mort de Régine, comment peut-on l'expliquer ? Vous avez dû aussi réfléchir depuis 14 mois.
C'est un état d'esprit que j'avais à l'époque. C'est une scène que je ne peux plus avoir devant les yeux. Je ne peux plus être le même homme.
Les coups que vous avez portés.
Je dois les admettre, puisque les constatations sont là. Mais je suis bien incapable de me souvenir comment je les ai donnés.
Au juge, Desnoyers ne sait quoi dire, comme aux 10 témoins qui se succèdent à la barre. Il y a là les différents inspecteurs, le médecin légiste ainsi que la mère de la victime. Elle raconte sa première rencontre avec Desnoyers, qu'elle continue d'appeler Abbé. Elle évoque ses bonnes manières, ses conseils lorsqu'ils ont appris la grossesse de Régine. On entend également le maire du village, Monsieur Arnaud, employé à la SNCF. Il dépeint un homme serviable de jour comme de nuit. Il n'a reçu aucune plainte de ses administrés. Oh, il a bien entendu, comme d'autres, les rumeurs, mais il n'y faisait pas attention, car ses on-dits étaient bien éloignés de l'homme qu'il écoutait chaque dimanche lors de l'office. À la barre, on ne voit aucune des maîtresses de l'abbé, aucune personne pour décrire le Guy Desnoyers des basses œuvres, si opposé à l'image d'Épinal d'un curé de campagne. Alors, c'est vers la science que la cour se tourne. 3 psychiatres ont eu la charge de déterminer si oui ou non l'homme de foi était devenu fou. Pour éviter toute discussion, la cour a désigné 3 médecins de 3 villes différentes, Paris, Strasbourg, Nancy. À la barre, les 3 professeurs confirment leur rapport. Ils n'ont trouvé ni tare psychologique, ni perversion fondamentale, ni trouble épileptique. L'homme est donc sain d'esprit. Selon la loi, abbé ou non, c'est donc l'échafaud qui rendra justice de ces 2 crimes. Et c'est le bâtonnier Robert Gasse qui trace le premier ce chemin vers la peine de mort.
À l'heure où dans nos églises montent vers le ciel des prières expiatoires, je voudrais avoir tout simplement une pensée pour celles dont les restes reposent sous la neige, dans le petit cimetière du Ruf, auprès de son enfant qu'elle n'a pas connu. Voilà Desnoyers. Je ne sais si le Dieu de bonté et d'amour aura pour vous quelque indulgence à l'heure peut-être proche de la mort. Je n'ai à connaître, moi, que la justice des hommes. Elle ne peut pas vous pardonner.
Desnoyers avouait. Coupable, il l'est, mais peut-il prétendre au bénéfice de circonstances atténuantes ? Pour le procureur général, Guy Desnoyers a trompé tout le monde, tout bafoué. L'acte était prémédité. Il a donné rendez-vous à Régine en dehors de la ville pour ne pas être vu. Et puis il y a le lieu du crime, une route éloignée, un petit bosquet. Le revolver était dans la voiture. La veille, lors de l'office, il avait prévenu ses paroissiens de son absence, ce qui aurait pu lui permettre de trouver un mobile. Donc, le crime n'était pas un hasard, mais un choix qu'il avait élaboré, accepté. Pour le procureur, l'homme qu'on appelait Abbé n'est plus qu'un assassin qui mérite la mort, 2 fois. L'avocat commis d'office pour sa défense espère un autre verdict pour son client, bien sûr. Et à la barre, il imagine la vie d'un prêtre forçat. Comme sur l'avocat, pour sa dernière intervention, Guy Desnoyers en appelle à Dieu, devant les jurés.
Je vous ai paru sans doute antipathique au cours de ces débats. Sans aucune sympathie, en tout cas. Encore une fois, je reconnais mes fautes passées. Je vous l'ai dit, je n'en connais pas les causes. Je demande pardon à Dieu, à la famille de mes victimes, à l'Église, à qui je fais passer actuellement des heures tragiques, et à la société tout entière. Je reste prêtre. Je réparerai en prêtre. Je m'abandonne à vous, parce que je sais que devant moi, vous tenez la place de Dieu.
Après une heure de délibération, le président s'avance pour lire le verdict. Le procès n'a duré que 10 heures, plaidoirie et réquisitoire compris. Aux 4 questions qui leur étaient posées, le double crime, l'infanticide et la préméditation, les jurés répondent « oui ». L'accusé bénéficie-t-il de circonstances atténuantes ? À la majorité, les jurés répondent également « oui ». Mais quelles sont ces circonstances atténuantes ? À aucun moment elles n'ont été évoquées. Aucun témoin n'a parlé de la vie de ce prêtre assassin. Aucun curé n'est venu témoigner du quotidien de la baie de campagne, du poids de la chasteté. Et pourtant, le prêtre n'aura pas la tête tranchée. Il est condamné aux travaux à perpétuité. La justice a-t-elle failli ? Qu'est-ce qui a sauvé la tête de Guy Desnoyers ? Sa foi ou la parade de celle-ci ?
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le curé Duruf, notre invité Jean-Pierre Bigeaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes psychanalyste et auteur de cet ouvrage intitulé « Double crime de l'abbé Desnoyers, curé Duruf ». Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire? À l'époque, vous aviez une vingtaine d'années, je crois.
Oui. Oui.
Qu'est-ce qui vous a interpellé?
Je vais répondre à votre question, mais d'abord, en tant que psychanalyste et poète, car je suis aussi poète, je voudrais nous mettre sous le patronage d'un poète latin.
Pardon de dire ça, mais restez dans cette position, parce que là, on vous entend mieux. Approchez-vous. Ouais. Oui, très bien, merci.
Je voudrais nous mettre sous la protection d'un poète latin qui a dit « Rien de ce qui est humain ne nous est étranger ». Pourquoi j'en viens à cette citation, c'est que, si vous voulez, ce qui a déclenché chez moi la nécessité d'écrire ce livre, longtemps après les faits, dont je parlerai tout à l'heure, c'est la publication d'un livre de Jean-François Colosimo qui s'intitulait « Le jour de la colère de Dieu ». Ce livre m'a bouleversé. M'a révolté, car cet auteur, par ailleurs excellent, exposait que le curé Duruf avait été la victime de Satan. C'était un homme possédé, et que le crime ne semblait avoir d'explication qu'à travers cette grille de lecture. Alors si vous voulez, cela m'a bouleversé, je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, à l'époque où j'ai lu ce livre, j'étais déjà psychanalyste. Et j'étais payé, si vous voulez, pour savoir que la perversion de l'homme, sous des formes moyennes en tout cas, est plus répandue qu'on ne veut bien l'imaginer. Je m'étonne toujours d'ailleurs qu'on ait tant de mal à l'imaginer quand on voit ce qui se passe dans le monde. Mais enfin, c'est ainsi. Et si vous voulez... J'ai éprouvé une colère d'autant plus grande que, d'une certaine façon, je me suis identifié au curé Duruf. Ça peut vous paraître monstrueux.
Non, mais étonnant. Au moins étonnant.
Étonnant.
Pourquoi?
Et je me suis identifié pour les raisons suivantes. J'ai vécu une jeunesse assez proche de celle du curé Duruf, en ce sens que, de par l'âge, je me suis trouvé vivre la guerre. Et d'autre part, j'ai vécu dans un milieu paysan ou très lié à la terre. Et d'autre part encore, j'ai connu de très près le monde clérical. Je l'ai connu de si près d'ailleurs que j'ai failli en faire partie. Mmh. Pour la raison d'ailleurs très simple et qui peut ouvrir des horizons. Et pendant la guerre, sous les bombardements, alors que j'avais 14 ans en Normandie, ma mère m'a demandé de prier le bon Dieu pour que nous soyons sauvés, et si nous l'étions, de m'engager à devenir prêtre. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner dans l'esprit d'un enfant que de se sentir lié par un vœu qui n'est pas le sien.
Donc, pardon de vous couper, mais vous savez, 20 minutes, ça passe très très vite, donc je suis un petit obligé de le faire. Oui. De ce que je comprends, il y a toutes ces dimensions-là dans cette affaire qui vous renvoient aussi à votre vie, qui ont constitué la motivation pour aller jusqu'à écrire un livre de cette affaire-là.
Oui, d'autant que, en effet, pour avoir approché, comme je vous l'ai dit, les prêtres, à la fois dans ma jeunesse, à l'école, et aussi dans mon travail, et plus récemment, si je puis dire, dans les thérapies de prêtres que j'ai pu faire, si vous voulez, j'ai compris que la difficulté des prêtres par rapport à la sexualité était une difficulté très importante sur laquelle on jette depuis toujours le voile de Noé. Mais... on ne veut pas le savoir. J'ai entendu dans mon cabinet des séminaristes qui me parlaient de leurs difficultés sexuelles dans le cadre du séminaire. Or, quand, il y a quelques 2 ans, j'ai entendu et où j'ai vu à la télévision une émission sur la pédophilie où le supérieur du grand séminaire de Paris était censé intervenir et n'a dit que « prions Dieu », j'ai compris qu'on ne voulait pas savoir.
Alors est-ce que ça veut dire que le coupable, moi, le coupable c'est lui, hein,
bien sûr,
évidemment. Mais est-ce que ça veut dire que derrière lui, le célibat des prêtres, le statut de célibat des prêtres porte une vraie responsabilité dans ce genre d'affaires?
Alors, écoutez, je ne le dirais pas de cette façon. Je pense que le célibat, pourquoi pas, si vous voulez. Ce qui me paraît évident, c'est qu'on ne peut pas évacuer la question de la sexualité, même si on ne l'exerce pas. Mmh. Et que, sur ce chapitre-là, la philosophie de l'Église est très imparfaite, sinon plus. Hein. Et voilà ce que je pense. Je ne pense pas que le curé du Rus, s'il s'était marié, en supposant qu'il puisse rester prêtre et marié, n'aurait pas eu des difficultés. Mmh. Mais par contre, ce que je pense, c'est qu'il aurait peut-être été accompagné, on peut l'imaginer. Aujourd'hui, il est vrai que l'Église s'est émue quand même de ses problèmes, et que, comme je viens de le dire, on fait appel même de temps en temps à un spécialiste.
Là, c'est pas la même époque. Hein. Là,
c'est pas la même époque. Bien sûr. Mais à l'époque où nous nous trouvons, alors je reviens justement en arrière, puisque j'avais 26 ans à l'époque des événements, si vous voulez, l'Église était dans une situation d'ailleurs très difficile, puisqu'elle sortait d'une période d'occupation où la France avait été catholique par principe, si je puis dire, hein, et où l'Église avait un peu la voix décisive sur beaucoup de choses, quoi qu'on ait dit, en tout cas dans le fond des campagnes, je peux vous assurer qu'elle avait une présence très importante, et d'autre part, les évolutions, une douzaine d'années après la fin de la guerre, les évolutions sociales ont poussé l'Église à prendre des positions nouvelles, par exemple les prêtres ouvriers, qui ont correspondu à une époque où, si vous voulez, on pensait que le prêtre devait vivre plus près de la vie réelle. Mais alors comment faire avec les pulsions d'un être humain, si vous voulez, si on le confronte à la vie réelle, sans lui donner les moyens de gérer ça?
Beaucoup de prêtres répondent, si nous n'avons pas de vie maritale et sexuelle, c'est parce que ça nous empêcherait d'être au service des autres et de pouvoir les écouter. Hein.
Oui.
Ils répondent ça, enfin, ça les regarde.
Oui.
Alors, on a compris maintenant pourquoi,
oui.
Vous venez de l'expliquer, il a pas été encadré.
Oui.
Mais lui-même, c'est quoi son engagement? C'est un engagement ecclésiastique sincère? Il est fait pour ça? Ou alors il y a une déviance, ou il n'était pas fait pour ça?
Ben, malheureusement, je ne peux répondre qu'en normand, évidemment. D'abord parce que, bon, nous n'avons pas les éléments qui nous permettraient de juger au fond, mais vraisemblablement, il y a de tout dans cette affaire. Je pense que il a été engagé dans la prêtrise, on l'a dit et redit, sous des pressions plus ou moins directes, hein, que moi j'ai vu de très près, puisque j'ai vécu dans un petit séminaire où j'ai vu des jeunes gens qui venaient précisément du même milieu que lui et qui étaient là parce que tout le monde le voulait. Enfin, c'est pas si simple que ça. Bien sûr, on peut pas faire abstraction de leur propre volonté, mais quand même, il y avait une forte pression sociale. Il faut dire que l'image du prêtre à la campagne, comme l'avait été celle de l'instituteur, l'était encore d'ailleurs, c'était aussi une image de promotion sociale. Bon, ce qui ne veut pas dire que la foi n'était pas présente et qu'il n'y avait pas une sincérité. Moi, je pense que chez le curé du Ruf, il y a une foi sincère, mais ça ne règle pas tout.
Bien sûr. Et alors ces victimes, Régine, qui est-elle? C'est la meilleure amie d'une certaine Michel, hein, qui a connu aussi le prêtre. C'est une ouvrière. Qui est cette jeune femme?
Écoutez, j'en sais aussi peu que vous. Hein. On sait assez peu de choses. Hein. Ce qu'on sait surtout, c'est que les relations quand même qu'il avait avec ces jeunes femmes, parfois des jeunes filles, hein, on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, parce qu'il y a eu beaucoup de scènes d'attouchement et de choses qui n'ont pas été répertoriées de façon très claire. Mais il est évident que son rapport avec les femmes était traversé par une sorte de curiosité mal gérée. Et que, au bout d'une curiosité mal gérée, vous savez ce que c'est que la curiosité des enfants. La curiosité des enfants, elle va jusqu'à ce que l'enfant qui s'intéresse à l'insecte lui arrache les pattes. Je veux dire que la curiosité sexuelle, elle est à la fois dynamique, mais elle est porteuse aussi de pulsions agressives qui peuvent aller très loin. Hein. Et en ce qui concerne Desnoyers, je pense qu'il a été débordé par ces pulsions. Il n'en a pas eu probablement conscience.
Alors, il est débordé aussi par des choix étranges. Après tout, il n'est évidemment pas obligé d'aller jusqu'à ce geste horrible. Il aurait pu être buté,
il aurait pu
se suicider, encore faut-il avoir le courage, mais ou autre chose, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce geste Comment? Alors, vous n'êtes pas profiler, comme disent les Américains, font des profils des criminels, mais enfin, quand même, comment expliquer ce geste-là alors que d'autres étaient possibles?
Écoutez, bon.
Parce que c'est le geste ultime, quand
oui,
même.
Oui. On est bien d'accord que Desnoyers n'est pas fou au sens de la maladie mentale. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que les degrés de folie, entre guillemets, sont multiples. Je veux dire qu'il y a tout de même des tas de gens qui vivent par moments des absences et qui commettent des actes dont ils tâchent de supporter les conséquences. Mais on peut imaginer qu'ils se soient installés dans une espèce de situation ingérable où sa propre conscience a évacué une partie de la réalité. Quand il dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, moi je le crois. Je pense qu'en effet, il y a eu une espèce de passage à l'acte délirant, si vous voulez, mais qui ne signe pas un délire permanent chez lui du tout. On a d'ailleurs d'autres exemples qui ne sont pas sans intérêt. Et par exemple, moi j'étais amené à étudier dans mon travail le problème des mères infanticides, les mères qui tuent leur enfant à la naissance. Bon, des tas d'études ont été faites là-dessus, et elles tentent à démontrer que on peut avoir affaire à un acte passager. Un acte délirant qui, si je le cite, ça n'est pas par hasard, s'attaque à l'enfant. Parce que je pense que l'objet quand même le plus épouvantable, si dans le degré d'épouvantable on peut faire un choix, c'est quand même le meurtre de cet enfant et cette espèce d'acharnement.
Acharnement, c'est ça.
À le défigurer. Ce qu'on a dit, bon, évidemment, si vous voulez, les pauvres jurés et les juges sont condamnés à faire avec les moyens du bord, avec des moyens rationnels.
Alors qu'il y a de la symbolique. Qu'il y a tellement de symbolique.
Alors, on dit, bien sûr, ils voulaient pas qu'on le reconnaisse, mais je pense que c'est une explication à minima.
Bien sûr. Je
pense qu'il s'agit d'autre chose. Et moi, mon hypothèse de psychanalyste, c'est qu'il est en train de se tuer lui-même.
Bien sûr. À travers l'enfant qui pourrait lui ressembler. C'est tout lui-même. Est-ce qu'il y a également dans ce drame, on pourrait appeler une mécanique du péché avec l'absolution, parce que c'est un ecclésiastique.
Oui.
Est-ce qu'il y a le côté je tue, mais je serai absous parce que. Ah.
Écoutez, je pense qu'il y a certainement dans la représentation du monde d'un prêtre de ce type-là, en tout cas, une espèce de difficulté à situer la frontière entre le naturel et le surnaturel, entre ce monde-ci et l'autre. Je pense que ça n'est pas si clair que ça, d'ailleurs. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un?
C'est une affaire, à force de parler avec vous, je m'aperçois, même si je suis baudorin un peu, que c'est une affaire qui est porteuse de beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Hein.
Bien sûr. Mais je pense que si elle a fait tant de bruit,
oui.
C'est un peu à cause de cela. C'est bien sûr que la monstruosité des faits, entre guillemets, a frappé l'opinion.
Et la presse.
Mais en même temps, l'interrogation, qui n'a jamais d'ailleurs été vraiment formulée sur le fond, elle a certainement travaillé l'opinion publique. Et à cet égard, le silence de l'Église et les bonnes paroles ont été catastrophiques.
Et on y arrive. Par le procès. Où l'Église est absente, hein.
Mais oui.
Refus d'assumer les déviances de son magistère avec certains curés, Desnoyers en particulier. Quel est votre regard sur ce procès, la façon dont il s'est déroulé?
Oh, c'est un procès à minima, si vous voulez. Il est évident que toucher à l'image du prêtre, fallait bien le faire, mais c'était dans une société qui se cherchait elle-même, je le redis, à cette époque de l'après-guerre, c'était réellement dangereux. Je pense que là, on a mis en avant les pressions de l'Église. Bon, c'est possible, mais je crois que c'est même pas nécessaire. Je pense que l'image du prêtre faisait partie quand même des éléments soudant, ce qui soudait un peu cette société, même si les gens allaient moins à la messe, encore qu'ils y allaient encore pas mal.
Dans les années 50, hein, oui.
Encore. Mais bon, je crois que là, il y a eu une espèce d'attitude d'autodéfense de la société. Si vous voulez, là-dessus, je pense qu'on a trop vite fait d'accuser l'Église. Hein. L'Église, elle faisait partie de la société, tout ça.
Oui, enfin, l'Église, en même temps, n'a jamais prétendu être une institution démocratique. Hein,
par ailleurs.
Tout le monde sait que quand il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de transparence non plus. Voilà, donc il y a une certaine logique infernale là-dedans. On va écouter une archive ensemble. En 1978, 20 ans après sa condamnation, Guy Desnoyers, qui était devenu le plus ancien détenu français, hein, d'ailleurs, obtient une libération conditionnelle. On va écouter deux témoignages d'habitants du RUF, donc interrogés à la suite de cette libération de la baie. Vous allez voir à quel point les souvenirs, évidemment, sont vifs.
Oublier, non. Non, oublier, c'est beaucoup dire. Mais ils cherchent à oublier. Tous les mois, ils ne veulent plus y penser.
Vous croyez que depuis 22 ans, ils ont essayé de chercher ce qui avait motivé l'acte du curé Duruf?
Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais enfin, de toute façon. Non, on veut oublier, et puis c'est tout. Hein.
Ah, pour moi, qui ai vu le spectacle, le triste spectacle, je trouve qu'il n'a pas payé, parce que une jeune fille de 20 ans est rentrée, un gosse entre les jambes, la figure mutilée. On ne peut pas oublier ça, et jamais je n'oublierai cette vision-là.
Et la population du Ruf?
La population du Ruf, c'était une population laborieuse, d'ouvriers, verriers, de cultivateurs.
Et ça a changé après?
Non, la population n'a pas changé. Au contraire, je crois même vis-à-vis de la religion qu'il y a eu un regain de foi.
Regain de foi.
Oui, je suis allé sur les lieux deux ou trois ans après le crime. Et j'avais espéré prendre contact avec les gens. Bon, je suis allé au bistrot et j'ai compris que c'était peut-être pas...
Pas la peine, quoi.
Non, c'était pas la peine. Par contre, je suis allé sur les lieux du crime. Et je dois dire que j'ai été très ému en voyant ce pays, cette terre, et ce crime lié à la terre.
Pourquoi crime lié à la terre?
C'est là où je manque et nous manquons d'informations sur ce qu'a été l'enfance de cet homme. Je m'en suis rapporté à ce que j'avais vécu moi-même, puisque j'ai vécu à la terre et j'ai vécu aussi ce rapport étrange entre la vie et la mort que le contact avec les animaux nous oblige à intégrer, si vous voulez. On n'est pas tout à fait dans la même culture, bien sûr que celle d'aujourd'hui, et même à l'époque, c'est une culture assez particulière.
Pardon, je vais un peu vite, mais l'heure tourne. Oui, oui. Quelque chose m'intrigue dans le récit. Pourquoi Desnoyers dit-il le soir du drame « Je connais l'assassin »
Écoutez, je trouve que c'est une parole d'une grande vérité.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est lui. Mais enfin bon, c'est pas ce que vous voulez me dire.
Mais c'est une grande vérité dans le sens où, effectivement, il ajoute qu'il est lié par le secret de la confession. Et moi je dirais, il est lié par le secret de l'inconscient. C'est-à-dire que ça se passe à la fois en lui et ailleurs. Et c'est ce mélange, si vous voulez, qui est troublant pour nous tous, évidemment, et qui va au-delà du meurtre. Comment faire l'unité dans ce que nous sommes?
Mais est-ce que c'est une circonstance atténuante?
Ça, je ne me place pas du point de vue de la justice. Hein. J'aurais tendance à penser que ça n'en est pas une.
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, il meurt en 2010, hein, Desnoyers.
Oui.
Il se passe quoi entre sa libération conditionnelle en 78 et 2010? Qu'est-ce qu'il fait?
Il a fini dans un couvent.
Un couvent.
J'ai eu rencontré quelqu'un qui l'a connu et qui m'a dit c'est un type tout à fait sympathique, pas très causant, mais très gentil, très serviable. Ce que d'ailleurs tout le monde a dit de son passage à Uruf.
Combien d'assassins sont-ils décrits comme des gens avant le crime, serviables, gentils? Oh, on n'aurait jamais cru que ce monsieur-là. Ça, c'est assez classique.
Hein. Oui, mais ce qui devrait donner à réfléchir.
Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr, bien sûr.
C'est pourquoi. Oui.
Bien sûr, pardon. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous pensez que dans cette affaire et dans le procès, et pas que dans le procès d'ailleurs, dans toute affaire, on a assisté quelque part à l'affrontement entre la justice des hommes et la justice de Dieu?
Oui.
Est-ce qu'il y a ça qui traîne un peu tout le long de l'histoire?
Oui, oui, probablement. C'est ce qui justifie un peu le livre dont je vous ai dit qu'il m'avait bouleversé. Hein, effectivement, on fait appel à Dieu.
C'était une façon de boucler la boucle, cher Jean-Pierre Bigeot. Merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le curé de Ruf, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons la Grande-Bretagne. Quand la Grande-Bretagne voulait faire partie de l'Europe, et vous verrez à quel point les conditions de son admission étaient difficiles.